Alors,
traditionnellement, il y a une lecture qui commence l'entrevue.
Oui.
Donc, c'est une lecture d'à peu près une page, je ne sais pas.
Écoutez, moi, j'ai réfléchi, puis j'ai fait simple. Hein, je me suis dit, j'allais lire un passage de l'introduction.
Oui, parfait.
Et bon, alors, si c'est un peu long, on m'a dit que vous pourriez couper après.
Oui, bien sûr, parce que c'est un montage.
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Donc, je fais un peu long, il y a des paragraphes, et si vous voulez couper, vraiment. Libre à vous. Donc, je commence à lire et après je m'arrête, on reparle ou bien on vous enchaîne direct?
Non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème, vous montez après.
Oui, enfin, je voudrais juste dire quelque chose à mon technicien.
D'accord.
Je voudrais mettre le chrono en montant quand elle commence à lire. Donc, je fais 1, 2, 3, vous lisez.
D'accord.
Et puis ensuite, quand vous avez fini votre lecture, on enchaîne sur la discussion.
Ok.
Alors, 1, 2, 3.
Un livre tel que celui-ci a pour seule légitimité d'être utile à celui qui le lit, de mieux lui faire comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent et le monde dans lequel il évolue. Son projet est d'initier une réflexion, de semer une graine, si petite soit-elle. C'est le sens de ma démarche. Je n'avais aucune idée préconçue, aucun préjugé en commençant cet ouvrage, juste une immense curiosité et le désir de découvrir quelques clés capables de faire comprendre les enjeux qui se cachent derrière la plupart des affrontements et des alliances entre un père et sa fille, de donner des repères permettant aux filles et aux pères de trouver un fil d'Ariane dans le dédale de leur relation. J'ai donné la parole aux filles, j'ai aussi donné la parole à leur père. Avec leur accord, j'ai rencontré et interviewé chacun séparément, de manière à pouvoir confronter leurs points de vue, montrer les divergences et les points de rencontre, aider chacun d'entre nous à se faire sa propre opinion et à bâtir son propre jugement. La confrontation s'est toujours révélée enrichissante. Elle nous enseigne la relativité et l'approximation de notre vision du monde. On croit celle-ci juste, vraie, immuable, et on s'aperçoit, cela demande réflexion et travail, qu'il est possible d'adopter un autre point de vue tout aussi valable. C'est une leçon d'humilité, mais aussi d'optimisme. Les relations que les filles entretiennent avec leur père ne sont jamais définitives. Elles peuvent trouver un nouveau souffle, emprunter une autre direction, même lorsque leur père est mort. Il est toujours possible d'envisager autrement un être humain ou un événement, à condition d'en avoir la volonté et le courage, d'en approfondir sa compréhension et de faire ainsi la paix avec une partie de soi-même, ses propres fondations.
Valérie Collin-Simard, c'est un extrait de l'introduction, en fait, de votre dernier livre, le troisième, qui vient de paraître chez Anne Carrière, « Père d'aujourd'hui, fille de demain ». Tout un programme. C'est vrai qu'on a beaucoup, notamment au cours des 2-3 dernières années, décortiqué les relations mère-fille. Évidemment, la psychanalyse nous en a énormément parlé au cours des dernières décennies. Et puis, on a vu, je dirais, une nouvelle génération de filles autour de la quarantaine, on va dire, qui se sont beaucoup plus penchées, soit à travers des romans, beaucoup de romans dans l'année qui a précédé et des essais dont le vôtre sur la relation père-fille. Est-ce que cette relation a évolué au point que d'un coup ces nouvelles filles s'intéressent à leur relation avec leur père?
Oui, ça, je crois que les filles, les relations, pour répondre à votre question, les relations ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Les filles, à mon avis, se sont toujours intéressées à leur relation avec leur père, parce que leur père est le premier homme de leur vie, même si elles ne le disaient pas toujours. Mais ce qui est très, très nouveau, c'est que les pères commencent à s'intéresser énormément avec leur relation avec leur fille. Alors, ce qui m'étonne, moi, j'ai vraiment écrit ce livre pour les filles. Ce livre s'adresse au départ aux filles pour qu'elles puissent trouver des repères de compréhension dans leur relation avec leur père. Et ma surprise, mon étonnement et mon éblouissement, c'est que les pères l'achètent. Alors là, je suis très touchée, je reçois des témoignages très enthousiastes de la part des pères, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Je crois qu'il y a à peine quelques 5 ans, ou 5 ou 10 ans, les pères n'auraient jamais acheté un livre concernant la relation avec leur fille.
Oui, mais c'est aussi des pères de différentes générations. Et dans votre livre, ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement des pères de différentes générations. Alors, qu'est-ce qu'ils attendaient donc? Quel interdit peut-être attendaient-ils de voir se lever pour pouvoir exprimer leur désir de relation avec leur fille?
Oui, ça, vous avez vraiment tout à fait raison. C'est comme un interdit, c'est-à-dire qu'on a notre part de responsabilité, nous les mères, nous les femmes, parce qu'on a un peu éjecté le père du foyer pendant très longtemps. Et c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on a le domaine du travail qui nous occupe énormément et on est bien content que les pères viennent s'occuper des enfants aussi et du foyer. Alors, vraiment, on est passé un peu d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'avant, les pères, c'était des pères absents, des pères lointains, des pères distants qui ne s'occupaient pas du tout de leur foyer et qui déléguaient à la mère l'éducation des enfants et tout ce qui concernait la maison. Aujourd'hui, les pères sont proches de leurs filles, très proches et même presque parfois trop proches. Donc les dangers d'avant ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Parfois, un père, c'est vraiment, ça a été une des grandes découvertes de mon enquête, c'est que un père peut être trop proche de sa fille, ça peut même poser des problèmes aux filles, et ce sont les nouveaux problèmes que rencontrent les filles aujourd'hui.
Oui, c'est précisément sur ce trop proche, moi j'ai l'impression que cette génération de filles, ou alors c'est moi qui suis plus particulièrement sensible, sans doute par identification, et on n'y échappe pas évidemment, parce que c'est un livre comme ça justement, où on va chercher des réponses comme fille, on va trouver forcément une relation là-dedans qui va correspondre plus ou moins à celle que l'on a avec son père, et à ce moment-là, on va trouver peut-être un moyen de se regarder sans trop de douleur parce que c'est raconté à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Il y a une chose qui me frappe dans ce livre, c'est que néanmoins la relation au père passe toujours par la mère, même dans ce livre-là.
Ah, c'est une relation à trois. Il y a un titre de livre récent qui s'appelle Mère-fille, une relation à trois, mais c'est oui. Aussi le cas pour le père. C'est vrai que c'est évident. Le tout premier regard que la fille va poser sur le père, dans les tout premiers mois de sa vie, les premières années de sa vie, ça passe par le regard de la mère. Et c'est un des premiers travaux qu'une fille doit faire si elle veut un petit peu dépasser sa relation avec son père, parce que j'ai découvert aussi dans ce livre, en faisant cette enquête, qu'il fallait dépasser, se libérer de la relation au père. C'est absolument nécessaire. Si on veut avoir des bonnes relations avec la société, avec les hommes, ben on en parlera sans doute après.
Oui.
Mais ça passe par la mère. Donc le premier travail d'une fille, c'est à un moment donné de sa vie, c'est de se dire, tiens, en fait, est-ce que je n'ai pas pris tout cru le regard que ma mère portait sur mon père? C'est la première question à se poser.
D'une part, d'autre part, j'ai lu dans votre livre aussi qu'il n'y a de père absent qu'absent de la parole maternelle.
Oui.
En fait, les trois quarts des témoignages aussi que vous nous rapportez sont des redécouvertes du père à un moment donné, par un contact direct, rendu plus facilement direct à l'adolescence ou même carrément à l'âge adulte ou même carrément quand elles deviennent mères. Il y a une redécouverte du père comme homme. Et là, aux surprises, il est effectivement pas tel que la mère en parlait.
Oui, mais alors là, vous le présentez de manière que je ressens comme un petit peu négative, et ça peut être évidemment tout à fait le cas, mais il y a aussi le côté positif, c'est-à-dire que par exemple, un père un peu trop absent peut être très présent par la parole de la mère.
Oui.
Et même un père mort peut être très présent par la parole de la mère. Si la mère parle beaucoup du père, on ne peut pas dire qu'une personne dont le père est décédé, par exemple, qu'elle n'a pas de père. Ça, c'est pas possible, surtout si la mère parle régulièrement de son père à son enfant.
Non, ce que je veux mettre en exergue, c'est que ça passe par la parole de la mère.
Oui,
néanmoins.
Absolument d'accord.
Et qu'il y a une étape qui semble être ultérieure. La relation au père est une étape ultérieure et qui passe apparemment souvent par une redécouverte, une nécessité de contact direct.
Tout à fait d'accord.
Est-ce que ça, c'est possible, justement, quand vous l'expliquez, plus dans l'organisation, non seulement sociale, mais familiale, mais aussi peut-être dans l'organisation de notre simple contact à nous-mêmes, à nos corps? Jamais des pères n'auraient osé avoir le contact physique qu'ils ont avec leurs filles aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui ont montré que plus un père s'occupait tout jeune, et dès les premières heures et premiers mois de la vie de sa fille, puis s'en occuper tactilement, charnellement, puis s'occuper du corps de son enfant, moins le risque d'inceste était grand au moment de l'adolescence. C'est des statistiques. Effectivement, aujourd'hui, les pères comprennent qu'ils peuvent et qu'ils doivent avoir un contact direct et charnel avec leur enfant dès les premiers mois de la vie.
Il m'est venu un mot, j'ai souvent pensé à ce mot-là, c'est le mot apprivoisement. On dirait qu'on est arrivé à un stade dans nos sociétés, parce que évidemment ça ne fait que de montrer l'écart qu'il y a avec d'autres sociétés dans lesquelles les relations père-fille sont loin d'avoir évolué en bien, mais dans nos sociétés il y a cet apprivoisement mutuel. Est-ce que c'est vraiment l'ère de l'apprivoisement pour vous?
Oui, en effet. C'est-à-dire que moi je le vois quand même un peu comme étant passé d'un excès à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des nouveaux dangers qui apparaissent dans la relation entre le père et la fille, le danger justement d'être trop proche. Je veux dire, ce qui structure vraiment la relation entre le père et la fille, c'est l'interdit de l'inceste. Et parfois les limites maintenant, j'ai bien pris garde dans ce livre, été à la recherche de pères suffisamment bons et de relations suffisamment bonnes. Donc j'ai vraiment, il n'y a aucun excès dans ce livre, ni inceste physique, ni viol, ni drame. J'étais vraiment à la recherche de repères justes et bons d'une relation d'une fille avec son père. Mais chaque histoire est toujours extraordinaire. Mais la limite est difficile à franchir. Comment ? Ils n'ont plus de repères. Les nouveaux pères aujourd'hui n'ont pas de repères parce qu'ils n'ont pas eu de père. C'est-à-dire que leur père était absent, n'ont pas été présents auprès d'eux, ils ne savent pas comment agir. Donc chacun est obligé d'inventer ses propres repères et c'est sans doute la raison pour laquelle mon livre a tant de succès auprès des nouveaux pères. Donc parfois ils franchissent sans le savoir, ils franchissent la ligne. C'est-à-dire que souvent aujourd'hui, on voit des jeunes papas qui embrassent leur fille sur la bouche, par exemple, sans savoir que pour la fille, ça prête à confusion. Donc je trouve que maintenant les nouveaux dangers d'une relation avec un père et sa fille ne sont vraiment plus les mêmes qu'hier.
Vous parlez par la bouche d'une psychanalyste que vous interviewez d'inceste, d'ambiance incestueuse. Et ça a existé de tout temps.
Oui, mais les ambiances incestueuses avant étaient c'était plus des incestes physiques. Alors qu'aujourd'hui, soit le père n'était pas là, soit si l'ambiance était incestueuse, c'était vraiment quelque chose d'assez lourd et difficile. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus insidieux. Vous avez raison, c'est-à-dire que ça se traduit, statistiquement, ça doit être la même chose, mais aujourd'hui, ça se voit beaucoup moins. Et je dis d'ailleurs, donc à la fin de mon livre, je donne les 10 clés des nouvelles relations entre un père et sa fille. Oui. Et c'est de dire que le plus grand service qu'un homme peut rendre à sa fille, c'est de rendre sa femme amoureuse de lui. Parce que beaucoup de pères croient que c'est rendre service à sa fille de s'occuper beaucoup d'elle et éventuellement de délaisser la mère. En réalité, c'est le contraire, parce que la petite fille ne sait pas que la petite fille en fait va s'identifier à la mère délaissée et risque fort en fait de reproduire le même schéma plus tard dans sa relation avec les hommes, et son estime de soi va en prendre un grand coup.
Voilà. Alors, vous dites justement, je ne sais plus de quelle clé il s'agit, mais de se libérer de l'impact du père, soit par sa trop grande absence, soit par sa trop grande présence. Oui. Mais en effet, ce qui structure aussi donc la relation père-fille, vous disiez, c'est l'inceste, l'interdit de l'inceste, évidemment. Et donc, le fait que le père ait une relation avec une femme qu'il désire et que ça soit très clair. Oui. Et cette limite-là est-elle si claire, vraiment ? Est-ce que tous les Oedipes sont si bien vécus qu'ils devraient l'être ?
Sans doute pas. Une des psychanalystes que j'interviewe dans ce livre, effectivement, donne l'exemple d'une fille qui va se marier et qui, la veille de son mariage, entend son père lui dire « De toute façon, le seul homme de ta vie, ce sera toujours moi. »
Oui.
Et celui-là, en effet, a le mérite de le dire. Beaucoup le pensent et ne le disent pas. Et en effet, de tout temps, ça a dû exister. Mais là, tout particulièrement, parce que comme il y a beaucoup de divorces, la vie sentimentale aujourd'hui est difficile, beaucoup d'hommes trouvent plus réconfortant de s'investir dans son travail et de laisser tomber toute relation amoureuse, et puis de se consoler sans le vouloir auprès de leur fille. Et ça, pour la fille...
Et vice-versa. Parce que la fille,
elle trouver consolation auprès de son père. Pourquoi pas ? Ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais qu'un père puisse aller trouver consolation dans sa relation avec sa fille, c'est plus pernicieux, parce que la fille, bien entendu, va être ravie. Elle va le plus souvent jouer le rôle de la maman auprès de son papa. Elle va se sentir très importante. Et elle ne se rend pas compte à quel point cette relation, finalement, l'emprisonne.
C'est un emprisonnement.
Oui.
Et en même temps, les filles divorçant, avant, traditionnellement, on passait du père au mari, on avait des fils, des frères, etc. On avait besoin d'eux aussi pour exister dans la société. Maintenant, c'est plus le cas, et finalement, on porte le même nom, le nom du père, toute sa vie. Et c'est effectivement l'homme qui traverse toute la vie.
Oui.
C'était pas le cas avant.
Absolument. Symboliquement, beaucoup de filles aujourd'hui choisissent de garder le nom du père et de ne pas prendre celui de son compagnon. Et effectivement, c'est très fort comme symbole, parce que ça veut dire qu'elle reste... cela veut souvent dire, on ne peut pas comme ça généraliser à ce point, mais cela veut souvent dire qu'elle reste un petit peu prisonnière de sa relation avec son père et qu'elle est à l'intérieur d'elle-même toujours une petite fille, la petite fille à son papa. Et on ne peut pas généraliser, bien sûr, mais ça peut souvent être le cas.
Alors, Valérie Colin-Simard, comment est-ce qu'on devient femme aujourd'hui dans ce contexte-là? Femme, ça veut dire exister en tant que femme, non plus comme fille, ni même comme mère, mais
question.
Simplement comme femme avec un homme.
Très belle question. Ben, je crois que justement, ça passe obligatoirement, et c'est une des raisons profondes pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je pense que ça passe obligatoirement par se libérer de la relation avec son père. Alors normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire tout naturellement à l'adolescence, dans une relation idéale avec son papa. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi facilement, et parfois on met toute une vie, ou plusieurs années, beaucoup d'années, à se libérer de sa relation avec son père. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, enfin une des raisons nombreuses pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que c'est si important la relation avec son père, parce que ça conditionne non seulement la relation avec les hommes, mais aussi la place dans la société et beaucoup d'autres choses, la confiance en soi, etc., et sa capacité de réalisation. Donc il faut vraiment, ça a aussi été une grande découverte de ce livre, c'est qu'on parle beaucoup de se libérer des jupes de sa maman, mais moi je n'avais jamais lu nulle part qu'il fallait aussi se libérer de la relation avec son père. Donc le premier stade pour arriver à avoir une relation libre et saine avec un homme, c'est se libérer en effet de la relation avec son père, pour mieux le retrouver ensuite en tant qu'adulte, adulte à adulte, mais c'est indispensable. Il y a plusieurs étapes pour cela.
Alors, en effet, il y a eu, je vous dis, dans la dernière année, des filles d'une certaine génération qui se sont penchées bizarrement d'un seul coup, et tout en même temps là-dessus. Est-ce que c'était personnel aussi je sais que j'ai lu d'ailleurs plusieurs, le dernier de vos livres, je n'ai pas lu Chagrin des autres, mais Plus fort que le destin, vous aimez... je crois vous pencher sur ce qui peut amener le meilleur être mieux avec soi-même dans des situations souvent extrêmes, dans lesquelles on pourrait être enlisé pour différentes raisons, soit parce que on a connu des guerres ou des pertes épouvantables, comme c'était le cas de votre précédent livre, et donc il y a une manière de dépasser ça. Et c'est de la survie, mais on est même plus fort encore avant qu'après. C'est ce que vous racontez dans votre précédent livre. Et ici, c'est le mieux-être dans sa relation de femme avec les autres, avec la société, peut-être même aussi avec sa mère, du coup. Est-ce que pour vous, c'était un engagement personnel ou est-ce que c'était vraiment purement un travail de journaliste?
Ah non, ça repose en tout cas, c'est un travail de journaliste, mais ça repose sur des convictions profondes et personnelles. Ça, c'est absolument. C'est-à-dire que je suis absolument fermement convaincue que les épreuves sont faites pour être dépassées et qu'elles sont un défi qu'on doit toutes relever. Donc, tous relever. Donc, ça s'appuie en tout cas sur des convictions profondes. Absolument, c'est tout à fait juste. Et je ne crois pas à la fatalité. Il y a des destins, comme l'indique le titre de mon précédent livre, Plus fort que le destin. Il y a un destin, sans doute, mais il est fait pour être dépassé. Et je ne crois donc pas à la fatalité. Et c'est effectivement ce qui sous-tend tous mes ouvrages.
Et effectivement, le livre Père d'aujourd'hui, fille de demain s'inscrit là-dedans, parce que vous démontrez aussi qu'il n'y a pas de relation, comme vous l'avez dit, définitive, mais que plus on prend conscience aussi de, à la fois des plaisirs et aussi des limites qu'on doit avoir dans ces relations père-fille, et plus on peut être libre et debout.
Oui. Tout à fait, c'est un livre qui a vraiment été conçu, donc comme je le disais au départ, pour les filles, pour que chaque lectrice puisse se faire son chemin à travers ce livre et avoir des éléments de compréhension de sa propre histoire. Parce que c'est seulement si on comprend sa propre histoire, et si on comprend d'ailleurs son père, je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvais père, qu'il n'y a que des pères maladroits.
Voilà.
Et malheureux et souvent aussi qui ne savent pas exprimer leurs sentiments. Je n'ai jamais rencontré un père qui profondément n'aimait pas sa fille. Simplement, beaucoup sont maladroits, sont malheureux et ne savent pas exprimer leurs sentiments et ne savent pas exprimer ne savent pas communiquer avec leur fille. Et donc j'ai vraiment écrit. Ça passe par toute cette compréhension. Ça passe aussi par la révolte et la colère. Une autre découverte de mon livre, c'était la colère des filles contre leur père. Et la plupart du temps, les filles ne s'autorisent pas à exprimer cette colère parce que ça se faisait pas, ça se fait pas pour une fille, en tout cas dans la génération précédente, d'être en colère.
Oui.
Donc ça se passe par beaucoup de tristesse, ça passe souvent par de la dépression. On s'autorise pas la colère, mais on la retourne contre soi et on est très triste. Donc c'est aussi une étape de libération, de s'autoriser la colère contre le père. Ensuite, l'étape suivante, c'est de lui pardonner, parce qu'on a compris son histoire, on a compris qu'en fait, il vous aimait, mais qu'il était malheureux ou maladroit. Et c'est ensuite, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut se libérer vraiment de sa relation au père et devenir une femme libre, capable d'aimer et capable d'avoir sa place dans la société.
Mais capable de se laisser aimer.
Il n'y a pas de se laisser
beaucoup
aimer.
Beaucoup de problèmes avec ça, finalement.
Ah, vous avez tout à fait raison.
Dernière question, Valérie Collin-Simard. Nous avons, une fois que nous sommes femmes, si tant est que nous ayons résolu tous ces problèmes, des relations avec des hommes qui, eux, sont des fils
oui.
de père.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette relation-là?
Écoutez,
l'objet d'un prochain livre.
Non, il a été très bien écrit par Guy Corneau, donc,
oui.
Que vous connaissez bien au Canada.
Oui.
Donc, père manquant, fils manqué. Donc, les relations fils-père, en effet. Mais c'est vrai que les fils ont souvent été un petit peu étouffés par leur maman, justement parce que le papa n'était pas présent et que du coup, ils ont, sans en être conscients forcément, eux-mêmes peur des femmes. Alors, ils ont peur à nouveau d'être envahis par les femmes, comme ils ont été parfois envahis par leur mère lorsqu'ils étaient enfants. Donc nous, les femmes, nous devons être d'autant plus fortes pour pouvoir encaisser nous avons nos névroses, ils ont les leurs, pour résumer.
Et eux, ils envahissent leurs filles maintenant, alors.
Alors voilà, parfois, ça peut être le cas.
Valérie Collin-Simard, pour Père d'aujourd'hui, Fille de demain, ça vient de paraître chez Anne Carrière. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Alors,